20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 9 avril 1975. Joséphine Baker brûle les planches du musical Bobino. Dans la nuit, elle s'écroulera d'une attaque cérébrale. Retour sur une vie extraordinaire et engagée la veille de son entrée au Panthéon. Nous sommes le 9 avril 1975. On oublie qu'elle a 69 ans quand Joséphine Baker descend langoureusement le grand escalier du musical de Bobino, perché sur des talons aiguilles, dans une grande robe fendue à paillettes qui souligne son corps fuselé de danseuse. Sous son chapeau orné d'immenses plumes blanches, elle gratifie les danseurs qui lui font cortège d'un regard de séductrice avant de lâcher leurs mains pour s'emparer de celles de leurs voisins. Elle est belle, elle est féline, elle est charismatique, c'est une évidence. Celle que l'on surnomme la Perle Noire est bien la reine dans cette revue haute en couleurs qui raconte sa vie et célèbre ses 50 ans de carrière mise en scène par André Levasseur. Eh oui, car Joséphine Baker n'était pas remontée sur scène depuis 1959. Dans sa loge, un télégramme du président Valéry Giscard d'Estaing exprime la reconnaissance de la France dont le cœur a si souvent battu avec le vôtre. À la première, on avait noté la présence du prince Régnier III et de son épouse Grace Kelly, de Charles de Gaulle ou encore du couturier Pierre Balmain. Ce soir, c'est sa 14e représentation. Dans les coulisses, un journaliste interroge Joséphine Baker.
Quel effet ça fait de remonter sur la scène?
Bien, agréable. De pouvoir retrouver la famille. La famille pour moi, c'est tout le monde et surtout le public qui m'a fait.
Cette pièce raconte votre vie. Est-ce que ça vous fait pas un peu drôle de retrouver sur la scène l'histoire de sa vie?
Non, c'est agréable.
Oui.
Parce qu'au moins, je vois ce qu'on pense de moi pendant mon vivant.
Ce que tout le monde ignore à ce moment-là, c'est que la star s'écroulera quelques heures plus tard dans la nuit, victime d'une attaque cérébrale qui la plongera dans un profond coma dont elle ne se réveillera jamais. Joséphine Baker tirera sa révérence à l'aube du 12 avril à 5h du matin. Ses obsèques grandioses qui auront lieu 3 jours plus tard en l'église de la Madeleine à Paris témoigneront de la gratitude de la France envers celle qui aura tant fait pour son pays d'adoption. Car si la féline Joséphine a mené des revues inoubliables, elle a aussi et surtout mené des combats. Pour l'enfance, contre le racisme, pour les femmes. Joséphine Baker, c'est une vie âpre de courage et d'indocilité. De la misère à New York à la fortune à Paris. Une ceinture de banane qu'elle portera sans naïveté à ses débuts dans la revue Nègre. Et des médailles accrochées à sa poitrine qui témoigneront de son engagement pendant la guerre. Véritable 007 dans des robes argentées, elle avait aussi fait de ses loucheries et de ses grimaces un rempart contre la séduction. Joséphine Baker, c'était la liberté d'aimer les animaux, les hommes et d'adopter 12 enfants des 4 coins du monde pour fonder une tribu arc-en-ciel, symbole de la fraternité universelle. Alors qu'elle entrera au Panthéon demain, le 30 novembre 2021, retour ce soir sur la vie et l'histoire de la première star noire au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine de l'actualité et de la connaissance. Et ce soir, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'une artiste hors norme, au destin exceptionnel. Elle s'appelait Joséphine Baker. Peut-être cette émission d'ailleurs vous permettra-t-elle de mieux comprendre la démarche de faire entrer demain cette illustre femme noire au Panthéon. Notre Jour J donc est le 9 avril 1975. Ce soir-là, tout le monde l'ignore, mais son show sur la scène de Bobino sera sa dernière révérence, toute en flamboyance.
Joséphine, qui au cours du spectacle change 20 fois de costume, tous plus somptueux les uns que les autres, pour apparaître presque nue dans le final de la revue. Une apparition qui n'était peut-être pas nécessaire, même si elle constituait effectivement une performance extraordinaire.
Bonsoir Virginie Giraud.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes docteur en histoire, vous êtes spécialiste des femmes et de la sexualité et vous êtes également auteur du livre Les Ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister chez M6 Éditions. Il en est une incroyable qu'est Joséphine Baker. J'avais déjà le sentiment d'en savoir beaucoup, mais j'avoue que dès qu'on se plonge dans la vie de cette femme dont on parle ce soir, on a le sentiment en fait d'ouvrir une porte qui en ouvre encore une, qui ouvre sur une fenêtre, qui ouvre encore sur une aventure. Joséphine Baker, c'est un roman, c'est un film, c'est une saga.
Ah, c'est une véritable saga puisque les histoires s'enchaînent, son arrivée en France, son arrivée dans le music hall, la star attitude qu'elle peut avoir et puis la résistance, l'épisode de la tribu arc-en-ciel pour finir et mourir sur scène qui est quand même incroyable.
Voilà, bah vous nous faites le sommaire de cette émission, c'est génial, vous savez ce qui vous attend. Parce que Virginie Giraud, effectivement, jusqu'à la fin, Joséphine Baker aura vécu un destin hors du commun, c'est-à-dire que, je l'ai raconté en tout début d'émission, quand elle est sur Bobino ce soir-là, elle parle à un journaliste en coulisses et tout, et quelques heures plus tard, elle s'écroule.
Tout à fait. Elle a un accident cardiovasculaire ou cérébral. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle passe une soirée mémorable, comme depuis qu'elle est retournée sur scène à Bobino. Il faut bien imaginer que c'est des standing ovations incroyables. Les gens applaudissent pendant presque une heure. C'est inédit à Paris. Mmh. Donc elle rentre chez elle le soir, heureuse, fatiguée. Sauf qu'un matin, eh bien, elle s'écroule chez elle. Elle ne pourra plus jamais retourner travailler. On l'emmène à l'hôpital. Elle va rester dans le coma pendant 2 jours.
Voilà. Et à l'issue de ce coma, donc, elle va s'éteindre, comme je le disais. 2 jours plus tard, la France va être sidérée d'apprendre que cette femme que l'on voyait encore descendre les marches entourée de danseurs absolument magnifiques, que cette femme qui à 69 ans en paraissait peut-être 20 de moins quand elle était sur scène, peut-être moins dans la vraie vie, hein, mais quand elle était sur scène, il paraît que tout à coup elle était tout autre, quoi. Et donc on va apprendre effectivement le décès de celle que l'on appelait et que l'on surnommait la Perle Noire.
Oui, tout à fait. Les gens l'adoraient. Il faut bien imaginer que c'était une femme qui dégageait de la joie. Quand on la voyait, on avait envie de sourire parce qu'elle avait comme une aura. Bon, je suis pas mystique, mais c'était une sorte d'aura qui vous donnait envie d'être joyeux. Elle communiquait son amour de la vie, de l'art, des gens. Et forcément, quand on la voyait, on se sentait bien.
C'était une femme extrêmement sensuelle, extrêmement sexy, qui jouait de son corps. On reviendra sur sa carrière époustouflante. Il paraît d'ailleurs que quand elle était sur scène pour son dernier Bobino, elle avait encore une taille de guêpe. C'était encore un corps de danseuse. Cette femme qui jouait de son corps et qui en même temps repoussait la séduction en faisant des grimaces, en louchant, en déconnant. C'est fou parce que c'était une femme à la fois libre mais qui en même temps luttait contre l'image qu'elle pouvait renvoyer.
Elle a un corps de rêve, comme vous l'avez dit, ouais. Et ça, dès sa jeunesse, elle est très sportive, elle danse depuis qu'elle est toute petite, donc elle a un corps juste magnifique, et elle est très souvent nue sur scène depuis les années 10-20.
Et même là, à 69 ans, elle finit quasiment nue. Hein.
Elle a une robe blanche, transparente, moulante, qui est incroyable, on dirait encore une Vénus, elle est sublime. Mais très jeune, elle a conscience, bah forcément, que son corps dénudé attire les hommes, et pour réduire un petit peu cette aura sensuelle, elle fait des grimaces, elle louche, elle fait des choses mais qui font hurler de rire les gens dans la salle, qui sont sa signature, et qui tempèrent un peu cette sensualité animale qui la caractérise.
Voilà, c'était donc effectivement une femme extrêmement sexy, mais qui s'en défendait le plus possible quand elle était sur scène. Elle avait une carrière incroyable, elle n'était pas montée sur scène depuis 1959. On reviendra sur l'enjeu aussi hein, de ce Bobino, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est revenue ? On célébrait ses 50 ans de carrière.
C'est ça. Elle fête ses 50 ans de carrière. Donc en France, il n'y a pas tant d'artistes que ça qui peuvent se vanter d'avoir 50 ans de carrière. Elle n'était pas montée sur scène depuis longtemps parce qu'officiellement, elle avait fait ses adieux à la scène. Mais ça lui manque, elle aime ça. Elle a aussi besoin d'argent.
Hein, c'était une femme très endettée à la fin de ses jours.
Elle adorait dépenser. En fait, elle n'aimait pas l'argent. Pour elle, l'argent, ça servait à dépenser.
Ça circulait, quoi.
Voilà. Elle vient d'une famille pauvre, donc l'argent, ça se dépense pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres aussi.
Donc du coup, elle remontait sur scène pour, on va dire, essayer de gagner de l'argent et pouvoir éponger des dettes absolument magistrales qui étaient les siennes. Est-ce qu'en même temps, elle faisait juste son taf ou est-ce que quand elle est revenue sur scène, elle a recouvré aussi ce feu sacré qui était le sien ?
Ah, la question, est-ce qu'elle a perdu ce feu sacré un jour ? Ouais. C'est quelqu'un qui a une aura d'artiste exceptionnelle. Et dès qu'elle remonte sur scène, elle est la Joséphine Baker que le monde entier
connaît. Elle s'allume, quoi.
C'est ça.
Elle s'allume. Et elle pourtant, irradie. Elle s'est éteinte donc, dans la nuit qui a suivi ce fameux jour J de ce soir, le 9 avril 1975, quand elle sort de Bobino. On parlait de son rapport à l'argent, Virginie Giraud, et dans un instant, on va revenir sur l'enfance à New York de Joséphine Baker, qui nous permettra peut-être aussi de comprendre pourquoi l'argent lui glissait entre les doigts. Il fallait qu'elle fasse plaisir, il fallait qu'elle claque, il fallait qu'elle dépense, parce qu'elle était aussi une star. Vous nous raconterez ça dans un instant, à tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Jour J vous plonge dans une vie digne, je vous le disais, d'un roman à plusieurs tomes et de plusieurs genres. La vie de Joséphine Baker, c'est une saga qui mêle le drame, l'action, la rébellion et l'amour. On y reviendra tout à l'heure avec vous, Virginie Giraud, car quelle femme amoureuse dans tous les sens du terme, hein. Elle était habitée par l'amour de la scène, l'amour des hommes, l'amour des enfants. Voilà, c'était une femme qui vibrait d'amour.
Ça s'appelle aimer la vie, je pense.
Voilà, elle aimait la vie et elle le partageait évidemment avec tous ceux qui avaient la chance de la rencontrer ou de la voir sur scène. Vous êtes historienne, Virginie Giraud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joséphine Baker, on va revenir à ses débuts. Elle naît le 3 juin 1906. 1906, c'était au début du siècle dernier. Ça m'a fait bizarre en préparant cette émission. Dans un quartier noir et pauvre du Missouri aux États-Unis.
Sa mère s'appelle Carrie, elle est d'origine noire et amérindienne. Le père de la petite Joséphine, future Baker, est lui d'origine hispanique. Donc elle porte déjà en elle quelque chose de la future tribu arc-en-ciel. Mais nous sommes aux États-Unis, en plein pendant la ségrégation. Le monde est blanc ou noir et là-bas, elle n'est donc que noire, réduite à vivre dans un ghetto où elle va danser dans la rue pour gagner quelques piécettes, faire des ménages chez des gens riches, mais vivre, quoi qu'il en soit, dans la misère la plus sombre.
Elle est noire, mais pas complètement noire, pardon de le dire comme ça, mais ça aura un impact aussi sur sa vie future et son arrivée à Paris, parce qu'effectivement, elle est métisse.
Tout à fait, en Joséphine réalité, Baker. C'est une métisse, on veut la réduire à une femme noire, en réalité, c'est plus complexe que ça.
Voilà, et on y reviendra, parce que ça aurait eu un impact sur le début de sa carrière. Virginie Giraud, elle est issue d'un milieu très défavorisé.
Extrêmement pauvre, un milieu qui subit les attaques du Ku Klux Klan, puisque cette organisation qui est régulièrement interdite et qui se refonde régulièrement, se permet à l'époque de faire des raids dans les quartiers noirs pour détruire les maisons et violer les femmes, en sachant qu'à l'époque aux États-Unis, une femme noire ne peut pas être violée parce que légalement, le viol de la femme noire n'existe pas.
Donc on peut en fait s'en donner à cœur joie.
Exactement.
Sur le corps d'une femme à partir du moment où il est noir. On raconte une histoire qui date presque d'hier, hein. Il faut bien le rappeler, puisqu'on est au début des années 1900 aux États-Unis, ça n'est pas si lointain que ça. Virginie Giraud, le père de Joséphine Baker, ben en fait, il va partir très vite.
Il s'en va, on ne sait pas où il va.
Il abandonne
femme
et fille.
Famille. Et la mère, Carrie, va très vite se remarier avec un ouvrier. Donc on vit dans la misère, dans une petite maison, dans une masure quasiment. Et puis très jeune, Joséphine, vers l'âge de 12-13 ans, décide de se marier avec un jeune garçon qui est à peine plus âgé qu'elle. Ils n'ont pas d'argent, ils vivent donc chez Carrie, dans une petite pièce au premier étage de la maison. Et puis un jour, c'est le drame. Il semblerait que le jeune garçon, Willy, découvre la petite Joséphine en train de tricoter une layette. Là, ça se dispute extrêmement violemment et il manque de la tuer pour se défendre. Elle lui éclate une bouteille sur la tête, le laissant quasiment pour mort.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle doit fuir?
Elle doit fuir et même elle décide que c'est le moment d'aller vivre sa vie. Elle a certainement avorté dans des conditions dramatiques, ça aura un impact aussi sur sa vie future.
Alors on rappelle qu'elle avait 13-14 ans. Hein,
voilà. Et elle monte à New York pour vivre son rêve, puisque la seule chose qu'elle sait faire, c'est chanter et danser. Broadway est en pleine expansion, donc c'est cette grande rue de New York où il y a tous les grands théâtres, les comédies musicales sont pareilles à la mode, donc ça commence à en écrire dans tous les sens, mais à chaque fois qu'elle postule, eh ben, elle ne peut pas aller dans les théâtres de blanc. Donc elle va postuler dans un théâtre noir où on joue un spectacle qui s'appelle Shuffle Along. Et là on lui dit, mais écoute chérie, t'as 16 ans, t'es toute petite, tu ne sers à rien, on ne veut pas de toi. Et elle fait le pied le grue dans le théâtre jusqu'à ce qu'on l'embauche, d'abord dans la troupe qui fait la tournée dans les petites villes, et là elle devient la vedette inconnue de Shuffle Along. C'est la fille qui, sur scène, danse mieux que les autres, fait des grimaces, attire l'attention. Et au bout d'un moment, le directeur de la troupe lui dit « Écoute, on te passe dans la troupe new-yorkaise. » Et là, elle commence à se faire remarquer comme une danseuse exceptionnelle. Évidemment, toutes les autres filles la détestent.
Ah bah, j'imagine, mais alors comment est-ce qu'elle arrive chez nous, Joséphine Baker?
Eh bien, un jour, elle rencontre Caroline Dudley Reagan, qui est la femme d'un diplomate américain en France, qui connaissait très bien André Davenne, le directeur artistique du théâtre des Champs-Élysées, qui voulait monter au début des années 20 à Paris une revue nègre.
Donc, alors voilà, précisons qu'à cette époque-là, non mais c'est fou, les Parisiens, les Français se passionnent pour l'exotisme, on va dire ça comme ça, et pour les pays africains.
C'est ce qu'on appelle la négromania.
Incroyable.
Et c'est pas péjoratif
non,
du tout à l'époque.
Non, pas du tout.
On est sorti de la Première Guerre mondiale, les Parisiens ont vu les artilleurs sénégalais, les militaires venir des colonies. Cette population s'est brassée, mélangée. Et quoi qu'on en dise, en réalité, les Parisiens n'ont pas de préjugés négatifs sur les gens qui viennent d'Afrique. Par contre, ils ont des rêves fantasmatiques d'un peuple très libéré, très sensuel, très animal.
Très cliché. Hein.
C'est cliché, c'est vrai.
Super cliché.
Mais sur lesquels ils projettent leur propre désir de liberté.
Donc cette femme alors, elle repère Joséphine Baker et elle se dit en fait il faut que je la fasse venir en France pour qu'elle participe et qu'elle soit l'une des vedettes de la revue Nègre.
Voilà, et donc Caroline Dudley-Regan la prend sous son aile avec une dizaine d'autres artistes dont le jazzman Sidney Bechet et elle ramène tout ça à André Davenne au théâtre des Champs-Élysées qui voit la troupe et qui lui fait mais qu'est-ce que tu fais, je voulais une revue nègre avec des noirs d'Afrique et là j'ai des afro-américains, c'est la Nouvelle-Orléans, c'est pas du tout ça que je voulais.
On va se retrouver dans un instant, parce que comment justement cette petite Joséphine, cette jeune Joséphine Baker qui vient des États-Unis, qui arrive à Paris, qui peut réussir, à qui l'on dit finalement tu n'es pas assez noire, hein, c'est concrètement
c'est
ce qu'on
ça,
lui a
oui.
dit, comment elle est devenue cette femme amoureuse aussi de la France à tel point qu'elle rentrera au Panthéon demain, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL, à tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive à Jour J qui nous honore. Jour J qui vient de vous raconter le début de la vie de Joséphine Baker. Joséphine Baker qui embarque à l'automne 1925 à bord du paquebot Berengria, direction Cherbourg. Elle vient des États-Unis, de New York. Elle arrive à Paris. Les répétitions au théâtre commencent mal. Ça ne fait pas assez nègre, se plaint André Davenne qui organise effectivement, Virginie Giraud, vous êtes notre invitée, la fameuse revue nègre que tout Paris attend. Donc elle n'est pas assez noire. Comment cette Joséphine Baker métisse, avec un talent de dingue qui était en train de faire succomber Broadway, a-t-elle réussi à trouver sa place dans les cabarets parisiens?
Ça a pris quelques temps. D'abord, effectivement, André Davenne lui dit « Écoute, tu vas danser presque nu. » Là, elle se dit « Écoute, c'est pas la peine, je claque la porte du théâtre, je rentre chez moi. » Mais André Davenne trouve les bons arguments et Joséphine accepte. Et elle a eu raison parce qu'on va monter des tableaux type Nouvelle-Orléans et type Afrique noire où elle va danser soit dans une petite salopette à moitié déchirée, soit presque nue, la fameuse danse sauvage. Et elle va incarner un petit peu tous les clichés que l'on peut avoir autour du monde noir. D'ailleurs, ça s'appelle la Revue Nègre. Et sur l'affiche donc, qui a été dessinée par Paul Collin, eh bien on voit les codes de ce monde noir de l'époque, avec les lèvres épaisses, et puis Joséphine Baker qui a les mains sur les hanches, en femme très affirmée, avec beaucoup de caractère. Donc à l'époque, ça suscite l'intérêt de tout Paris.
Alors ça fait rêver, ça fait rougir les hommes, cette danse complètement endiablée de cette femme qui a l'air complètement libérée, qui surfe sur tous les clichés de la négritude, mais qui surfe sans être dupe. Hein, on est bien d'accord, elle sait très bien.
Elle n'est pas dupe, elle en fait quelque chose de joyeux et d'attrayant. C'est pour ça qu'elle
elle
a tellement de succès.
Ouais.
Voilà, finalement, en jouant avec le stéréotype, elle le casse. Et très vite, c'est Joséphine Baker, la perle noire de Paris, qui va intéresser plus que la femme noire, c'est l'artiste.
Alors, on écoute Joséphine Baker se souvenir d'un cadeau que lui avait fait un admirateur, cadeau qui ne passerait plus du tout aujourd'hui.
Un jour, quand j'étais en Allemagne, avant la guerre, il y a un monsieur dans la salle qui m'a porté, enfin, il y avait une caisse énorme. Une énorme boîte qui arrivait sur la scène. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce beauté? Je crois qu'il était encore une petite bestiole, parce que j'aime ça. J'aime bien les petits chiens, les chats, des singes, des petits cochons, enfin tout ce qu'on veut. Et alors, il m'a dit, madame, est-ce que vous avez de la gentillesse d'ouvrir? Bien sûr, avec plaisir. Ce qu'il y avait, devinez.
Des bananes.
Régime de bananes. J'étais enchantée.
J'étais enchantée. Imaginez Virginie Giraud que ce genre de choses puisse arriver aujourd'hui.
Alors évidemment, ça choquerait, mais ça fait référence aux Folies Bergères où elle va danser avec cette fameuse ceinture de banane. Et pendant la guerre, lorsqu'elle se produit sur scène et qu'on lui dit « Mais vous n'avez plus votre ceinture de banane », elle répond malicieusement « Vous savez, on a du mal à trouver de la nourriture, alors je les ai mangées. »
Ouais. Mais elle n'a pas eu peur non plus de ça.
Non, elle n'a pas eu peur. Je crois qu'elle a peur de rien, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui, d'une part, est profondément joyeux, qui a un très gros caractère. Il ne faut pas lui marcher sur les pieds à Joséphine Baker. Parce que c'est une gentille, mais attention, elle mord s'il faut. Et forcément, tout glisse sur elle. Parce que c'est une diva et qu'elle en joue à mort.
Virginie Giraud, on l'a dit, elle n'était pas dupe. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier que cette petite Joséphine Baker, elle a vécu sous la menace du Ku Klux Klan dans le Missouri aux États-Unis, dans lequel est née, où la ségrégation donc régnait. Elle arrive à Paris, elle participe à la Revue Nègre, on lui met une ceinture de banane, mais ça ne fait pas d'elle une femme qui se désengage de la cause noire, bien au contraire.
Pas du tout. Et mais au-delà de la cause noire, c'est le racisme qu'elle combat, parce qu'elle a des vraies valeurs humanistes, et pour elle, qu'on soit noir, blanc, métis, qu'on soit juif, musulman, catholique, pour elle, c'est pareil. Elle a vu que dans le monde du spectacle, on pouvait tous s'entendre. Alors dans la vie, ça doit être la même chose. Mais en France, finalement, elle vit dans un monde parisien où tout se passe bien. Elle oublie. Et c'est en retournant aux États-Unis, dans les années 32-33, quand elle fait sa première tournée de retour aux États-Unis, qu'elle découvre dans un hôtel de luxe, alors qu'elle est déjà une star planétaire, qu'on lui dit « Pardon madame, il faudra passer par la porte de derrière par contre ». C'est une humiliation terrible. Quand elle se produit dans les Ziegfeld Follies à Broadway quand même, c'est quand même la plus grande star planétaire du moment, on lui blanchit le visage. Parce que ça se fait pas encore, les Noirs qui jouent dans les théâtres de Broadway pour blancs. Donc c'est une série d'humiliations et elle se rend compte que, en fait, aux États-Unis, j'avais peur d'être noire. Alors qu'en France, elle n'a pas connu ça.
Alors, est-ce pour ça aussi qu'elle a refusé de jouer dans des clubs de Miami, justement, qui pratiquaient la ségrégation, en disant, écoutez-moi, c'est simple, je ne me produirai que si les Noirs peuvent venir dans mon public ?
Tout à fait. Elle l'a fait aux États-Unis, elle l'a fait aussi pour l'état-major américain pendant la guerre, quand elle se produisait au Maroc. Elle ne pouvait pas lutter contre le nazisme qui s'attaquait aux Juifs pour une question de religion, et... accéder à un public qui serait seulement noir ou blanc. Elle ne pouvait pas tolérer que dans son pays, on pratique la ségrégation.
Donc elle a fait avancer la cause des
Noirs
aussi, hein, en imposant au nom de son statut de star internationale, en imposant l'entrée des Noirs dans le public de ses spectacles. En 1963, elle est à côté de Martin Luther King à Washington, devant le Lincoln Memorial, quand il prononce son discours « I have a dream ». D'ailleurs, si vous n'avez pas entendu cette émission, vous pouvez la retrouver sur les podcasts sur l'application RTL, car elle est absolument passionnante et vous apprendrez beaucoup de choses. Martin Luther King, elle a rencontré dès le début de sa lutte ?
Elle l'a rencontré assez rapidement. Il y a une sympathie qui se crée, parce que forcément, dans ces milieux noirs et humanistes, hein, ce qu'était Martin Luther King, eh bien, on se rassemble pour prêcher la même parole. C'est-à-dire, on ne veut pas de la violence, on veut l'égalité. Et effectivement, en 1963, elle est à la marche sur Washington, qui est avec des dizaines de milliers de personnes, et elle est la seule femme à parler à la tribune. Alors, ce qui est très amusant et triste à la fois, c'est que d'une part, les services secrets américains la surveillent, parce qu'ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est une communiste, cette femme. Et une frange radicale des Noirs la déteste aussi, parce qu'on estime qu'elle a fait carrière chez les Blancs en Europe, donc elle n'a pas à parler là. Et finalement, ce sont les radicaux de tous bords qui la détestent. Ça veut dire que c'est une femme bien.
Exactement, et une femme libre. Cette femme libre, on va y revenir dans un instant, car son moteur, c'était l'amour. L'amour dans tous les sens du terme. Joséphine et l'amour, c'est dans un instant dans Georgie sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit, et il nous faudrait bien plus qu'un épisode de votre magazine de mémoire pour raconter la femme extraordinaire qu'était Joséphine Baker. Alors si nous venons de vous parler de l'artiste qui portait des plumes et la ceinture de banane sur scène sans être dupe de rien, si nous venons de vous expliquer aussi le regard qu'elle posait sur la peau noire sans jamais s'être rendue d'ailleurs sur le continent africain, et son engagement contre la ségrégation auprès de Martin Luther King, nous allons désormais vous narrer Joséphine et l'amour. Et alors ça faisait partie de ses raisons de vivre, Virginie Giraud.
C'est une grande amoureuse de la vie, des hommes, des animaux.
Ah bien sûr, on va commencer par eux. On ne sera pas dans l'ordre de préférence, mais les animaux. Joséphine Baker avait des bestioles, mais complètement délirantes. Pareil, ça ne pourrait plus exister aujourd'hui.
Elle a des best friends, c'est comme ça qu'elle les appelle. Et dans sa loge aux Folies Bergères, elle a aménagé tout un tas de petits endroits, de petits coussins, de petites cages pour ses lapins, pour ses chiens, pour ses chats et pour sa chèvre qui s'appelle Toutoute, et pour son serpent qui s'appelle, attendez le nom du serpent, Zizi.
Bien sûr, oh, j'aurais trouvé le même nom. C'est tout à fait. C'est très drôle. La prochaine fois que j'aurai un serpent, j'appellerai Zizi. Et puis attendez, elle a eu une panthère, non ?
Elle a eu une panthère à un moment, effectivement, qui terrorisait l'orchestre des Folies Bergères. Et puis elle se baladait souvent avec sa fameuse chèvre à qui elle donnait le biberon. Voilà, c'était très amusant.
Donc elle était folle d'animaux. Elle aimait les hommes. C'était une grande amoureuse. Vous nous l'avez expliqué, elle s'est mariée très jeune. Alors, est-ce que c'était un mariage d'amour avec ce jeune dans le Missouri ? Pas sûr. Mais alors après, on a le sentiment que les hommes... C'est pas dire qu'ils l'ont pas menée par le bout du nez. Elle y est toujours allée, quoi. Alors, quand elle était amoureuse, elle se mariait, quoi.
Alors, on est à une autre époque. On se marie très facilement pour montrer au monde qu'on est réellement en couple.
Bon, aujourd'hui, on réfléchit à deux fois, quand même.
Mais on divorce plus facilement aussi à l'époque, finalement.
Ouais.
Les grandes actrices qui font 3, 4, 5 mariages. Bon. Et effectivement, au début de sa carrière, elle a beaucoup d'amants qui la traitent comme une princesse, une courtisane, mais qui la cachent au monde. Elle en souffre. Je rappelle quand même qu'à Paris, elle n'a pas de famille. Sa famille est aux États-Unis. Elle est seule, donc elle a besoin.
Pourquoi il la cache ? Parce qu'elle est noire ?
Mais non, parce qu'elle est considérée comme une cocotte en réalité.
Ah d'accord, ok.
C'est vraiment pas sa couleur.
Donc attendez, une cocotte, c'est une femme facile ?
Bah, c'est une artiste qui arrondit les fins de mois en étant concubine d'un homme riche. Mais c'est comme ça encore que dans les années 20, on perçoit les artistes de musicals.
Ouais,
c'est pas sa couleur le problème, c'est son statut.
D'accord.
Mais effectivement, à un moment, elle va trouver un homme qui va tomber extrêmement amoureux d'elle. C'est Giuseppe Abbatino, un Sicilien brun, ténébreux, qui se fait passer pour un aristocrate. Il est tailleur de pierre en vrai.
Mais... Ah, c'est pas mal aussi, hein. Ça me plaît bien, ouais.
Et c'est un homme qui a les mêmes blessures qu'elle, une enfance difficile, l'abandon, et puis il est fou d'elle, et il la montre quand il sort, il lui tire sa chaise quand ils vont au restaurant, il lui fait des câlins en public, et puis au bout d'un moment, eh bien, il décide de l'épouser, et elle l'adore parce qu'il prend soin d'elle, et il va devenir son manager.
Voilà, il deviendra son manager, ce qui ne l'empêchera pas, elle, de vivre d'autres amours.
Oh ben non. Pourquoi se priver ?
Non mais c'est ça, Joséphine Baker, c'est la liberté d'aimer aussi.
Bien sûr, alors Abbatino est quand même un poil jaloux, mais c'est pas grave, elle a d'autres amants, et parmi eux, un jeune homme qui a l'air tout timide, qui s'occupe parfois de ses papiers, qui s'appelle Simenon.
Ouais.
Et alors ce qu'on ne sait pas, c'est que Simenon a une libido incroyable, il avouera à la fin de sa vie avoir eu 10 000 femmes.
Dont petit joueur.
C'est un travail à plein temps à ce stade. Et évidemment, il lui saute périodiquement dessus. Elle adore ça. Parfois, c'est même elle qui le provoque. C'est son toy boy, on dirait aujourd'hui.
Et le dernier, c'était Bouillon.
Et le dernier, c'était Joe Bouillon, qui était un de ses fans. Hein. Faut être honnête, ça fait 10 ans qu'il lui courait après. Et il a été très content quand elle a divorcé de Jean Lion. Il faut dire qu'avec Jean Lion, elle s'est mariée en 1937, donc le 30 novembre. Hein. C'est pour ça qu'on a choisi cette date pour la panthéonisation. Et ils se sont mariés à Crèvecœur-le-Grand, dans l'Oise. Je pense que c'était pas un bon présage.
C'est joli en même temps. C'est intéressant parce que pourquoi on parle de Bouillon et de Joe Bouillon ? C'est que les enfants... je ne sais pas si tous les enfants de Joséphine Baker portent le nom de Bouillon Baker, en tout cas certains oui, parce qu'elle a fondé une tribu arc-en-ciel. Cette femme, dont l'enfance a été terriblement difficile, qui a perdu son père très vite parce que son père s'est barré, voudra fonder une famille heureuse. Elle va adopter 12 enfants du monde entier, elle appellera donc ça la tribu arc-en-ciel. Écoutez-la, nous sommes en 1961 dans l'émission 5 colonnes à la une.
Et voyez-vous, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement de incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec les tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale.
Sa fameuse tribu arc-en-ciel. C'est beau parce qu'en fait, elle voulait de la fraternité mondiale. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut se dire après coup que Brad Pitt et Angelina Jolie ont fait un petit peu le même truc. Non, mais c'est
oui,
vrai, hein,
c'est vrai.
Dans une version plus contemporaine. Mais c'est adopter des enfants du monde entier pour essayer de faire passer un message universel.
Oui, et puis elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle a eu une hystérectomie. C'était le drame de sa vie. Donc, quand elle commence à s'éloigner un petit peu de la scène, elle adopte des enfants au Japon, en Afrique.
En fait, quand elle voyage, pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment avec cœur, hein, elle ramène un enfant.
Oui, mais c'est pas comme un accessoire, c'est vraiment
par
amour.
Oui, bien sûr.
Et elle veut très symboliquement avoir des enfants qui viennent du monde entier pour prouver à la terre entière que la fraternité n'est pas une histoire de couleur de peau.
Est-ce que c'était une mère présente ?
Oui, elle est très présente, elle aime fondamentalement ses enfants et elle aime les mettre en scène aussi parce qu'au château des Milandes, il y a des grandes grilles et très souvent, le dimanche, elle se rapproche des grilles avec les enfants pour se faire prendre en photo, pour parler aux gens, pour leur parler de son projet humaniste et ça fait vraiment partie de cet ADN de Joséphine Baker, aimer la vie et montrer aux autres que la vie c'est fantastique.
Vous parliez du château des Milandes car pour abriter sa tribu, elle va acheter ce fameux château mais l'argent, on le disait, lui file entre les doigts, donc il vient à manquer. Plusieurs fois, elle va manquer de le perdre parce qu'elle est poursuivie par tout le monde, en fait.
Ah
par
bah, le fisc, par... Le fisc et divers créanciers, effectivement, qui lui réclament de l'argent parce qu'elle adore organiser des fêtes. Le château, bah, évidemment, comme chacun le sait, un château, ça coûte extrêmement cher, c'est à fond perdu. Et au bout d'un moment, elle fait ce qu'on appelle dans le milieu des ménages, c'est-à-dire qu'elle va faire des petits galas de ci, de là pour gagner de l'argent. Elle remonte sur scène quand c'est nécessaire, mais il n'y a jamais assez d'argent pour entretenir les Milandes.
C'est ça. Et en 64, Brigitte Bardot, alors qu'elle ne connaît pas du tout réellement hein, Joséphine Baker, lance un appel aux dons.
Je viens vous parler de ce qui arrive en ce moment à Joséphine Baker. Je trouve personnellement que c'est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Je ne savais pas trop comment joindre tout le monde, alors j'ai demandé à la télévision d'être le porte-parole des gens que cette histoire a touchés.
Donc, c'est fou ce qu'on est en train d'entendre. Parce que la faille de Joséphine Baker, c'était l'argent. Et en fait, Brigitte Bardot fait un appel aux dons. Pour une star que tout le monde connaît. Enfin, c'est comme si tout à coup, on nous avait dit, il y a quelques années, on va faire un Johnny Don, quoi. Enfin, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est... Non ?
C'est à peu près ça, sauf qu'elle savait moins bien gérer l'argent, elle n'avait pas de Laetitia, elle.
Voilà, c'est ça peut-être, mais en tout cas, il y a cette idée de dire, aider quelqu'un qui déjà vit très bien et gagne beaucoup d'argent, mais aider-la à aller mieux. Finalement, Joséphine Baker va perdre son château, hein, parce que de toute façon, elle aura plus de dettes qu'elle n'a de courant, d'acquis. Et c'est son amie Grâce de Monaco qui va lui offrir une villa.
Tout à fait.
Sur le rocher.
Elle est proche de la princesse de Monaco, et comme elle est Grâce est très touchée par le destin de ses enfants. Elle ne veut pas qu'ils vivent comme des sans-abri. Elle leur propose une maison à Roquebrune, une jolie maison avec piscine, où elle va héberger gracieusement la tribu arc-en-ciel.
Voilà, et Grâce de Monaco qui sera évidemment à ses obsèques. On va se retrouver dans un instant et revenir justement sur ce 15 avril 1975 et sur ce qu'il va se passer demain au Panthéon à Paris. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Demain, 30 novembre 2021, Joséphine Baker sera la première femme noire et la sixième à entrer au Panthéon après Sophie Berthelot qui est entrée en tant qu'épouse avec Marie Curie, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle, Antonioz, de grande résistante, et puis Simone Veil. Un événement de mémoire et de gratitude d'un pays envers une femme qui a tant fait pour lui. Virginie Giraud, la France lui a rendu hommage à Joséphine Baker lors de ses obsèques. C'était le 15 avril 75 dans l'église de la Madeleine à Paris. C'était fou ce qui s'est passé. C'était des obsèques nationales.
Alors il n'y a pas eu d'obsèques nationales qui ont été organisées, mais ça avait cette apparence.
Exactement.
Comme il y en a eu à d'autres moments de l'histoire, pour Sarah Bernhardt notamment, pour des femmes artistes en réalité qui étaient très aimées. Et donc il y a tout un cortège qui se forme avec la foule qui se presse. La Madeleine est noire de monde. Tout le monde veut accompagner la perle noire dans son dernier voyage. Et ça prouve combien cette femme était aimée par tout Paris, mais aussi par tous les Français. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la panthéonisation, elle ne serait pas si connue que
c'est
ça.
Vrai,
elle commence à sombrer dans l'oubli. Et cet événement permet de se rappeler qu'elle a fait beaucoup pour l'art, pour la France et pour l'humanisme.
Voilà, et je vous invite d'ailleurs à retrouver des images qui circulent sur Internet du cortège funéraire qui fait une halte à Bobino, puisqu'elle est morte après sa dernière scène à Bobino, hein, la 14e représentation de son dernier show quelques jours auparavant. On va écouter Joséphine Baker raconter sa résistance, puisqu'elle était une grande résistante, comme une évidence. Écoutez.
J'ai chanté de temps à autre. Mais surtout, je faisais de la résistance parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de malheureux.
J'ai chanté de temps à autre, mais j'ai surtout été une résistante. C'est comme ça qu'elle se définissait.
Oui, elle avait vraiment à cœur de défendre la France, puisque c'est le pays de son cœur, c'est le pays qu'elle a choisi pour vivre. Elle se sentait fondamentalement française, même si une part d'elle restait américaine. Et lorsque les théâtres, le théâtre dans lequel elle travaille, ferme peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance. Alors quand le capitaine Aptel la voit arriver, il se dit « Oh mince, une autre Matahari, je vais encore avoir des problèmes ouais. ». Il ne se rend pas compte.
Ça va pas être simple à gérer, celle-là.
Voilà. Alors certes, c'est une diva, mais elle, contrairement à Matahari, est une véritable patriote. Elle se passionne très vite pour le général de Gaulle. Elle sera d'ailleurs un soutien indéfectible jusque dans les événements de mai 68. Et elle va profiter de son statut de star pour continuer à voyager, être invitée dans les états-majors à droite à gauche et poser des questions qui ont l'air mais d'une naïveté absolument terrible pour avoir des informations qu'elle va noter à l'encre sympathique sur les partitions
c'est
musiques.
C'est fou ça, c'est fou.
Ouais.
C'est fou. C'est-à-dire que, non mais pour ceux qui nous écoutent, pardon, mais c'est-à-dire qu'en fait, elle prenait les renseignements en jouant sa Joséphine Baker,
exactement.
Un petit peu écervelée, celle qu'on avait vue danser avec sa ceinture de banane. Et en fait, en réalité, elle a récupéré des infos qu'elle écrivait sur ses partitions à l'encre sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une encre invisible.
Exactement. Hein ? Parce que elle est loin d'être bête, bien évidemment, et surtout elle a à cœur de devenir l'un des personnages qui sauve la France. Quand elle est opérée à Casablanca, donc elle va passer plusieurs semaines à l'hôpital, Aptek qui est sur place est stupéfait de voir à quel point elle est courageuse et même malade, elle fait venir plein de gens dans sa chambre pour pouvoir continuer à gérer la résistance. Il y en a un qu'elle refuse de recevoir, c'est un autre artiste qui s'appelle Maurice Chevalier, star française internationale à l'époque, et elle refuse de le recevoir parce qu'il passait sur l'antenne de Radio Paris, donc Radio Traître, pour dire qu'il fallait collaborer entre Français et Allemands.
Donc, son camp était choisi, le camp de la France, une femme qui a donc couru des risques pour ce pays qui finalement n'était pas le sien, mais pour lequel elle est tombée en amour.
C'est son pays de cœur, en fait, c'est ça être français. C'est aimer la France et vouloir défendre ce pays, défendre ses valeurs humanistes, de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est ça être français, en fait.
Et on retrouve cette chanson. Donc c'était une sorte de 007 en robe à paillettes.
C'est ça.
Qui prenait des risques vraiment, j'allais dire inconsidérés, mais de très grands risques qu'elle considérait tout à fait justement pour cette patrie d'adoption qui était la France. La France qui le lui a reconnu. En réalité, le corps de Joséphine Baker demain ne viendra pas au Panthéon parce qu'on parle de la panthéonisation de Joséphine Baker. Mais c'est une plaque qui va être posée. Ça s'appelle donc un cénotaphe, comme pour Aimé Césaire, dont le corps repose en Martinique. C'est quelque chose que vous regrettez pour vous ? Il va manquer quelque chose demain dans cette célébration ?
Oui, c'est dommage. La famille n'a pas donné l'autorisation pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte évidemment pleinement. Mais lorsqu'on est panthéonisé, on n'appartient plus à sa famille, on appartient à la France. Et donc elle devrait être au Panthéon, c'est sa dernière scène finalement, elle est là.
Oui, et pour vous, en fait, venir se recueillir sur une plaque, ça n'est pas comme de venir se recueillir ou visiter finalement un défunt dont on sait qu'il repose là.
Si les ossements ont disparu, ça peut très bien se comprendre. Or là, son corps, on sait où il se trouve. Et la panthéonisation qui plus est d'une femme de couleur qui a choisi d'être française et qui n'est pas née française, c'est quand même rare. On pourrait parler de Marie Curie, bien évidemment, la seule personne au monde à avoir deux prix Nobel. Mais c'est quand même dommage qu'elle ne soit pas physiquement là au milieu de tous ces grands hommes et toutes ces grandes femmes pour lesquelles la patrie veut marquer sa reconnaissance.
Néanmoins, on peut saluer donc cette panthéonisation qui finalement coule de source, évidemment, après une initiative qui s'appelait l'initiative Osez Joséphine.
Oui.
Osez Joséphine, pour reprendre cette chanson d'Alain Bachung, qui effectivement aura permis d'entendre cette demande de panthéonisation de Joséphine Baker. Est-ce que Gisèle Halimi va suivre et fera partie de ces femmes qui rentreront au Panthéon ? On en parlera peut-être un jour, peut-être qu'on vous recevra à ce sujet-là, Virginie Giraud. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et pourquoi je vous parle de Gisèle Halimi ? C'est parce que c'est une femme qui a tant fait aussi pour les autres femmes et que l'on retrouve dans votre ouvrage « Les ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister » chez M6 Éditions. Merci beaucoup, Virginie
Giraud.
À bientôt sur RTL.